RCF.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans l'émission Chemin de pensée, les neveux de René. Nous sommes ensemble et nous continuons notre parcours philosophique avec la rencontre de Socrate. Socrate qui disait « Je crois être un des rares Athéniens, pour ne pas dire le seul, qui cultive le véritable art politique et le seul qui le mette aujourd'hui en pratique ». Donc Sylvain, tu veux nous rappeler un petit peu notre parcours la semaine dernière ?
Oui, donc nous sommes entrés un peu plus en détail dans tous les détails du procès de Socrate, hein, qui est donc le thème de l'apologie de Socrate. Et donc, on a vu déjà de quoi il était accusé, donc de pervertir la jeunesse et de ne pas respecter les dieux, d'introduire de nouveaux dieux. Et on a aussi vu pourquoi finalement, la raison de ce comportement, mais bien sûr expliqué du point de vue de Socrate. Pourquoi lui agit comme ça, et bien sûr pourquoi il se défend des accusations qui sont portées contre lui. Et donc, ce que l'on apprend finalement, c'est que tout vient d'une déclaration, d'un oracle en fait, de la Pythie de Delphes, suite à une question où on demande qui est la personne la plus savante. La Pythie répond que c'est Socrate qui est le plus savant. Et ce qui est intéressant, c'est évidemment après de voir, et c'est là qu'on va pouvoir continuer ce travail, cette discussion, de voir comment Socrate a réagi à ça. Et donc, il a pas pu se dire que déclaration de l'oracle l'a beaucoup perturbé. Et donc, il se décide à mener une enquête. Donc si on peut, pour reprendre un petit peu le détail du texte, on va en faire une petite lecture d'un passage où justement Socrate nous explique comment il réagit à cette annonce. « Lorsque je connus cet oracle, je me dis à moi-même, « Voyons, que signifie la parole du Dieu? Quel sens y est caché? J'ai conscience, moi, que je ne suis savant ni peu ni beaucoup. » Que veut-il donc dire quand il affirme que je suis le plus savant? Il ne parle pourtant pas contre la vérité. Cela ne lui est pas possible. Longtemps, je demeurais sans y rien comprendre. Enfin, bien à contre-cœur, je me décidai à vérifier la chose de la façon suivante. Donc là, le texte, j'arrête la citation. Et après, on va voir justement comment il va s'y prendre. Pour mener son enquête et comprendre un petit peu la signification de cette déclaration qu'il ne comprend pas au final.
Alors, une première question que je voudrais vous poser, Sylvain et Nicolas, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'étrange dans le fait de devoir attendre un oracle de la Pythie de Delphes, qui est... Donc les oracles sont connus pour être des oracles... cryptique, hein, un oracle, ça c'est pas, il dit pas il y a une promotion de 20% sur les chemises ou sur les yaourts au supermarché. C'est quelque chose qui est difficile à interpréter, un oracle en principe, de cryptique.
Qui est souvent à double sens.
Qui est souvent à double ou triple ou peut-être multiple sens. Est-ce qu'il faut attendre d'être en contact avec un oracle pour devenir philosophe? Est-ce que la philosophie, ce n'est pas la raison? Est-ce que ce n'est pas la clarté? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui engage d'abord le raisonnement? Et pourquoi? Quel est le rapport entre cet oracle et la démarche de Socrate?
Je pense que la question que tu as posée, c'est la question d'un homme du XXIe siècle.
Assurément.
Et comme nous l'avons dit la dernière fois, donc, nous sommes au Ve siècle avant Jésus-Christ en Grèce. Et il y a la dimension sacrée qui est présente de façon quotidienne, de façon importante, chez chacun des habitants de la cité athénienne, et y compris chez Socrate. On a l'habitude, à notre époque de distinguer justement la philosophie qui s'opposerait à l'obscurantisme, à la religion, etc. C'est quelque chose qui remonte au Moyen-Âge où la philosophie a pris son indépendance par rapport à la théologie tout en lui étant toujours soumise au sein du monde catholique. Et puis cet écart a cru jusqu'au XVIIIe où être philosophe, s'affirmer philosophe, c'était s'affirmer libre penseur, c'est-à-dire indépendant des autorités religieuses. Et après, au XIXe siècle, avec des gens comme Nietzsche ou encore plus au XXe siècle, il va y avoir cette opposition entre religion et philosophie. Chez Socrate, chez Platon, cette opposition n'existe absolument pas. Les deux vont de concert. Ne serait-ce que parce que la vérité vient par la bouche d'un dieu, Apollon, qui est lieu donc solaire de la vérité. Et la vérité a quelque chose de divin.
Pourquoi tu dis Apollon ? Est-ce que Apollon, c'est parce que le temple de Delphes, c'est le temple d'Apollon, c'est ça ?
Alors, le temple de Delphes, c'est le temple d'Apollon, la Pythie, c'est l'oracle d'Apollon, mais Apollon, c'est aussi une divinité que Platon va citer énormément dans toute son œuvre.
Sylvain, tu veux nous lire peut-être d'autres extraits qui permettent d'éclairer cette position de Socrate ?
Oui, tout à fait. Donc, on va pouvoir commencer un peu l'enquête, en fait. Je vais lire justement les passages où Socrate nous explique un petit peu son enquête. J'allais trouver un des hommes qui passait pour savant, certain que je pourrais là, ou nulle part, contrôler l'oracle et ensuite lui dire nettement « Voilà quelqu'un qui est plus savant que moi. Et toi, tu m'as proclamé plus savant. » J'examinais donc à fond mon homme. Inutile de le nommer, c'était un de nos hommes d'État. Or, à l'épreuve, en causant avec lui, voici l'impression que j'ai eue, Athénien. Il me parut que ce personnage semblait savant à beaucoup de gens et surtout à lui-même, mais qu'il ne l'était aucunement. Et alors j'essayais de lui démontrer qu'en se croyant savant, il ne l'était pas. Le résultat fut que je m'attirais son inimitié et aussi celle de plusieurs des assistants. Je me retirais en me disant, à tout prendre, je suis plus savant que lui. En effet, il se peut que ni l'un ni l'autre de nous ne sache rien de bon. Seulement, lui croit qu'il sait, bien qu'il ne sache pas. Tandis que moi, si je ne sais rien, je ne crois pas non plus à rien savoir. Il me semble en somme que je suis tant soit peu plus savant que lui, en ceci du moins que je ne crois pas savoir ce que je ne sais pas. Après cela, j'en allais trouver un second, un de ceux qui passaient pour encore plus savant, et mon impression fut la même. Du coup, je m'attirais aussi l'inimitié de celui-ci et de plusieurs autres. Donc voilà le passage des premières rencontres que Socrate va faire, donc avec des hommes d'État, donc politiques, où en fait, ce qui est très intéressant ici, c'est qu'il nous dit bien, finalement, Socrate ne dit pas qu'il est... Enfin, il se rend bien compte qu'il ne sait pas plus de choses que ce qu'il imaginait. Par contre... Il se rend compte que les gens avec qui il va discuter croient savoir des choses alors que finalement, ils se trompent. Ils pensent savoir alors qu'en fait, ils ne savent pas. Alors que lui, justement, il sait qu'il ne sait pas. Donc c'est le point supplémentaire qui fait qu'il est plus savant qu'eux puisqu'il sait une chose de plus qu'eux, au moins.
Oui. Est-ce qu'on va y croire à cette histoire ? C'est ça la question. Si on prend les dialogues socratiques, il faut qu'on regarde, parce que donc nous avons déjà dit aux éditeurs de suivre ce texte de l'Apologie de Socrate, de faire cet effort de lire le texte, parce qu'effectivement, écouter l'émission à elle seule, ça ne suffira pas. Dans quels autres dialogues où Socrate est mis en scène par Platon, on peut penser par exemple au Gorgias, où Socrate va affronter dans une joute, merci, il y a la rixe et la joute, donc dans une joute verbale, Gorgias et d'autres qui sont des rhéteurs, et on arrive finalement au terme de ce livre, dont on recommande la lecture aux auditeurs, a quelque chose de curieux, c'est-à-dire que finalement, Socrate n'arrive pas à convaincre ses auditeurs,
enfin ses auditeurs, ses interlocuteurs, ses contradicteurs, et il en vient à convoquer un mythe qui fait intervenir la rétribution des âmes pour finalement convaincre ses interlocuteurs. Alors, n'est-ce pas quelque chose de curieux finalement ?
Alors oui, mais en même temps, bon là, on explique, enfin tu donnes une version du Gorgias qui est un petit peu raccourcie quand même, parce que là tu vas tout de suite à la fin où il y a le mythe.
Oui.
Mais entre-temps, il se passe quand même beaucoup de choses et Socrate a quand même le temps d'expliquer en quoi la rhétorique finalement n'est pas une science, hein, une techné. Donc il y a quand même, dans tout ce discours, dans tout ce dialogue, il y a quand même du contenu sur la différence entre la science et ce qui semble être la science.
Je voudrais vous poser une question. Est-ce que Socrate n'a pas lamentablement échoué ? Parce que, voilà, tu dis, Socrate explique que la rhétorique n'est pas une techné, donc elle ne procède pas d'un savoir réel. Or, aujourd'hui, dans notre société, qui sont les personnes qui réussissent le mieux ? Ce sont justement celles qui sont les plus habiles à vendre des choses par le biais, bon, ça s'appelle plus la rhétorique, on peut appeler ça de la publicité,
de la communication,
marketing, la manipulation des masses et ainsi de suite. Mais ce sont ceux-là qui réussissent le plus. Donc on peut se dire que le message socratique a totalement échoué à faire son chemin dans le parcours de l'humanité. Et donc pourquoi on croirait plus ce qu'il dit dans l'Apologie?
Alors, c'est pas parce qu'il a échoué que ce qu'il dit est faux, d'une part. Ensuite, effectivement, on peut voir que notre société n'a pas évolué dans le sens que Socrate espérait, lui, pour la société d'Athènes. Justement, il le dit, hein, à d'autres endroits un peu plus loin dans son Apologie, que finalement, il fait tout ça, c'est pas pour lui. Hein. Quelque part, ce n'est pas lui-même qu'il défend dans l'Apologie, mais c'est bien quelque part, la cité entière, et c'est le bien de la cité qu'il défend, et par service aux dieux. Donc c'est par piété qu'il fait ça. Si on reprend un petit passage, hein, pour étayer cela, c'est, donc je cite, hein, c'est en 21D, donc je cite, « Je continuais néanmoins tout en comprenant, non sans regret ni inquiétude, que je me faisais des ennemis. Mais je me croyais obligé de mettre au-dessus de tout le service du dieu. Il me fallait donc aller toujours en quête de sens de l'oracle, vers tous ceux qui passaient pour posséder quelque savoir. » Et ainsi de suite. Donc on voit bien qu'il ne fait pas ça pour lui-même, mais quelque part par une sorte de devoir qu'il se sent imposé. Il n'a même pas choisi. C'est parce qu'il y a eu l'oracle qui a dit ça qu'au final, il a été un peu presque pris au piège.
Alors ça, je trouve ce point intéressant. Avant de donner la parole à Nicolas, que je vois bouillir sur sa chaise. On va faire une petite pause musicale. Et il me semble que ce que tu as donné comme éclairage, Sylvain, illustre ce que nous disions en début d'émission, à savoir que cette démarche de Socrate, qui est une démarche de soin de l'âme par la recherche de la vérité, par l'enquête de qu'est-ce que c'est qu'un vrai savoir, eh bien, c'est une démarche qui n'est pas seulement personnelle, mais éminemment politique. Voilà. Une petite pause musicale.
Des repères pour aujourd'hui. RCF.
Bienvenue, vous êtes toujours sur l'émission Chemin de pensée, les neveux de René. Nous sommes en deuxième partie de cette troisième émission consacrée à l'apologie de Socrate et à la découverte de la pensée qui nous a été léguée par Platon. Alors Nicolas, tu voulais nous dire quelque chose à propos de la discussion qu'on a sur le rôle, non pas individualiste, mais politique de Socrate. En quoi cette démarche philosophique de quête de la vérité, d'enquête, de vouloir éprouver un savoir, quel rapport a-t-elle avec une démarche qu'on pourrait qualifier de nos jours de politique ?
Je voulais auparavant rebondir sur ce que vous disiez sur l'échec de Socrate. Peut-être s'agit-il d'un échec à convaincre, à convertir l'âme de ses interlocuteurs, mais finalement, l'état de notre monde. Ce que dit Socrate, c'est que si les gens se comportent mal, s'ils utilisent mal le pouvoir de la rhétorique, s'ils l'utilisent pas pour rechercher la vérité mais pour tromper, ils se font avant tout du mal à eux-mêmes. Et vu l'état de notre monde, on peut se demander si les hommes ne se font pas beaucoup de mal à eux-mêmes. Et si, en quelque sorte, ce n'est pas un fait expérimental favorable à ce que racontait Socrate.
Oui, alors, mais c'est aussi ce que je disais la semaine dernière, la fois dernière. Il y a ce que tu dis, on constate globalement. Mais moi, je n'ai pas envie de me laisser vaincre, écraser par les autres. Mmh. Donc pourquoi est-ce que je ne participerai pas finalement au mal ? Et tant pis pour la collectivité, au fond. Peut-être que moi, mon seul objectif, c'est de tirer mon épingle du jeu. Et ma foi, si je peux bien gagner ma vie, réussir les choses en vendant, je ne sais pas moi, des produits qui ne vont pas nécessairement faire du bien à ceux qui les achèteront, où est le problème ?
Eh bien, ce que dit Socrate, c'est que tu te fais du mal à toi-même si tu refuses de convertir ton âme vers le bien et vers le vrai.
Et est-ce que là, il n'y a pas quelque chose, justement, qui peut nous renvoyer à ces fameux dialogues ? C'est-à-dire, d'accord, il nous dit ça, mais on va lui rire au nez, Socrate. Et finalement, cette histoire qui est proposée dans l'Apologie de Socrate, est-ce que ce n'est pas aussi l'histoire d'un retentissant échec de gens qui finissent par rire au nez du philosophe, à le mettre à mort à la fin ? Et est-ce qu'on ne peut pas dire finalement qu'une mère de famille ne devrait pas conseiller à ses enfants de faire de la philosophie s'il ne veut pas mal finir ?
Bah, tout dépend de l'idée qu'elle se fait du bien et de ce qu'est une belle vie. Si elle peut souhaiter une belle vie à ses enfants, tout dépend de ce qu'elle conçoit comme étant une belle vie.
Oui, pour compléter un peu ce que dit Nicolas, en fait, toute la difficulté du discours socratique, c'est vraiment cette démarche vers le bien, vers la vérité et vers le beau. Pour Socrate, il n'y a pas de différence entre toutes ces choses-là, et toutes ces choses-là sont liées au divin. C'est-à-dire que dans sa pensée, l'être humain est voué à aller vers le divin, vers le beau. Mais le problème, c'est qu'il a besoin pour ça d'une discipline, d'une certaine façon, d'un chemin. Et ce qu'il essaie de montrer, c'est justement qu'il peut y avoir, d'une certaine façon, des voies, des façons de vivre qui vont à l'encontre de ça. Et ce qu'il va défendre, c'est justement ce qu'on va appeler le soin de l'âme, d'une certaine façon, c'est-à-dire de soigner son propre bien-être, mais bien-être pas au détriment des autres. Attention, dans la voie de la justesse ou de la justice, pour s'approcher du beau et du bien.
Donc ce que tu dis, c'est qu'il y a un ajointement, une sorte de concomitance toujours, de bien-être au sens je me sens bien, mais j'ai un lien à l'être dans le sens où j'examine les choses, je les remets toujours en question, et c'est peut-être ça qui fait que Socrate ne peut pas être appelé provocateur, mais ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il cherche véritablement, pour lui, il n'y a pas d'autre issue que d'être toujours dans cette perpétuelle remise en question.
Tout à fait. Et alors, bon, le mot bien-être était probablement mal utilisé dans le sens où aujourd'hui, il y a une connotation particulière à ce mot.
C'est important de le signaler.
Il faut bien faire attention à l'usage des mots. Il est clair que, justement, Socrate, ne fait pas passer son bien-être personnel avant le bien de son âme. C'est-à-dire qu'il est prêt à mourir. Il est prêt à mourir. Donc physiquement, à la limite, c'est pas grave. Ce qui est important pour lui, c'est l'âme. Et alors après, il peut y avoir d'autres choses qui découlent, parce que le bien du corps aide l'âme, on va dire, à aller mieux, à aller bien, etc. Il peut y avoir tout un tas de choses comme ça qu'il va défendre. D'ailleurs, si on lit La République, il y a tout un tas d'éléments qu'il montre, qu'il met en avant. D'ailleurs, notamment le bien de la cité, où il explique bien que le bon fonctionnement de la cité dépend aussi du bon fonctionnement de l'âme de chacun. Donc voilà, il y a tous ces éléments-là. Mais ça, bon, c'est des choses sur lesquelles on pourra revenir, bien sûr, beaucoup plus tard. Et au final, son centre d'intérêt, c'est vraiment, encore une fois, de se soucier de s'améliorer sans cesse. Toujours d'essayer d'aller chacun vers le beau et le bien et la vérité, puisque tout ça n'est qu'un seul tout, en fait.
Est-ce qu'on peut croire à ces choses-là, en fait, de nos jours? C'est ça la question que je voudrais vous poser. C'est puisqu'on subit un matraquage perpétuel qui nous force à être toujours performant, toujours dans le succès, dans l'accumulation peut-être des biens matériels, des choses comme ça. Comment faire pour résister? Est-ce que Socrate, vous le voyez vous-même dans votre propre quotidien? Est-ce qu'il vous aide à faire face, je ne sais pas, aux petites tracasseries de la vie quotidienne ou à cette espèce d'érosion perpétuelle, puisque Socrate, c'est celui qui a tenu bon face à l'érosion du quotidien. Il était toujours incisif et toujours subversif, pour employer le terme. Mais subversif, il faudrait peut-être analyser ce mot et montrer en quoi il a une connotation négative, mais aussi salutaire parfois. Nicolas, tu es pris au dépourvu. Autrement dit, je vais peut-être reformuler ma question pour être plus clair. Qu'est-ce que c'est que pour vous philosopher? Puisque pour le mot, pour les gens qui ne sont pas nécessairement versés dans les textes platoniciens, philosopher, c'est une espèce de sagesse. Le philosophe, c'est celui qui va éviter les ennuis, qui va mener une bonne vie, vieillir tranquillement, etc. Or, Socrate, c'est pas du tout ça. C'est presque le contraire. C'est quelqu'un qui va toujours être dans le combat, à son poste. Toujours là, fidèle à son poste. D'ailleurs, lui-même dit, lors des batailles, j'étais là, fidèle à mon poste, et ainsi de suite. Est-ce que c'est ça, la philosophie? Est-ce que c'est une forme de combat? Ou est-ce que c'est autre chose? Et comment on peut comprendre ça, si jamais on ne croit pas à l'existence de l'âme?
Bien. pour commencer par répondre peut-être simplement, je dirais que la philosophie, c'est le chemin de l'être. C'est-à-dire que ne pas se laisser imprimer par un extérieur, mais sentir son être personnel, non pas pour le faire subir à d'autres, mais simplement pour qu'il trouve sa place et, dans l'univers et qu'il... qu'il trouve une bonne place, une place juste.
D'accord. Donc ce que tu dis, tu as dit ta place dans l'univers, mais est-ce que c'est pas la place dans la cité avant tout? Je veux dire, est-ce que...
La cité, c'est un petit univers.
C'est un petit univers. Peut-être par rapport à la cité en tant qu'être. Donc ce que tu dis, c'est que quand... je fais quelque chose de bon dans ma cité, je contribue au bien-être de l'univers total. C'est ça que tu dis dans ton analyse?
Oui, si on veut, oui. Mmh. Et sachant que l'univers, il y a plusieurs échelles. C'est-à-dire qu'on peut considérer la cité comme un microcosmos.
Microcosmos, d'accord.
Ouais.
Oui.
Après, bon, comme tu disais, la difficulté avec Socrate et tout ce qui en découle, c'est ce rôle central de l'âme. Parce qu'effectivement, si tu dis... je ne crois pas à l'âme, pour le coup, ça remet beaucoup de choses en question. Là, c'est clair. Pour Socrate, l'âme est quelque chose d'évident. C'est même pas, il ne se pose même pas la question. Et même, quelque part, c'est ça qui est plus important que le corps, puisque Le corps, c'est le monde des apparences, c'est le monde sensible. Mais pour dans tout ce mouvement de philosophes grecs, enfin la Grèce antique d'ailleurs en général, ce qui est important, c'est l'essence des choses. C'est vraiment... c'est ça, c'est les notions, en fait, hein, les idées des choses, plus que leur instance. Donc au final, l'âme, c'est ça aussi. On va être plus dans cette dimension-là. Donc après, c'est sûr que si on ne croit pas à l'âme, on ne peut plus défendre cette progression, puisque bien sûr l'âme pour Socrate est éternelle, ou quasiment, et du coup on ne peut plus défendre cette progression. Et d'ailleurs, c'est pour ça que parfois il a recours à des mythes. Bien souvent, notamment comme tu l'avais évoqué, à la fin du Gorgias, il a un recours à un mythe, parce qu'il y a un recommencement, il y a cette progression de l'âme au fil de vie éventuelle, parce que finalement, dans les croyances grecques, il y a des réincarnations et ces choses-là. Donc
on voit ici tout le dépaysement, c'est-à-dire qu'on fait toujours comme si lire la philosophie était une chose facile. Or, on voit ici, par des exemples concrets, où sont les difficultés. C'est-à-dire, effectivement, lire les textes de Platon et Socrate, c'est quelque chose qui est abordable, et j'espère qu'on a donné envie à vos auditeurs de faire ce travail-là et de lire par eux-mêmes. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'avoir un grand savoir. En revanche, les thèmes qui sont abordés sont très riches et méritent d'être médités, lus et relus. Et c'est à ce travail-là qu'on engage nos éditeurs à nous suivre au cours des prochaines émissions. Merci et à la prochaine fois.